Dernière séquence pour comprendre et débattre avant le premier tour des élections présidentielles. Donc Paul, on a fait le tour un petit peu des différents courants de pensée qui sont représentés au premier tour de ces élections. On a parlé des courants libéraux, sociaux-libéraux et puis de la gauche anti-libérale. Alors justement, c'est une nouvelle séquence aujourd'hui sur cette gauche anti-libérale. La semaine dernière, on a vu qu'il y avait deux grands courants de pensée à l'intérieur de ce mouvement anti-libéral, hein, à la fois la famille marxiste-léniniste et l'écologie politique. Donc deux courants de pensée bien distincts, mais cinq candidatures. Alors comment et pourquoi cinq candidatures? Comment vous expliquez un petit peu ces cinq candidatures?
On va essayer de regarder comment les choses se sont jouées dans le temps. Donc par rapport à la perspective de ne voir que deux courants qui se présentaient comme libéraux et libéraux sociaux, il y a eu l'idée d'un certain nombre de personnes de dire si on réussit à présenter au présidentiel et aux législatives un certain nombre de candidats autour d'un programme alternatif, on est en capacité de représenter une part importante de l'électorat français. Et cette part importante de l'électorat français était estimée en référence un petit peu à toutes les personnes qui, au moment du traité constitutionnel européen, s'étaient positionnées sur un nom de gauche. C'est-à-dire que ce n'était pas un nom à l'Europe, mais un nom à une Europe libérale. Donc de dire, il y a moyen là-dessus de présenter un programme alternatif qui représente une part importante de la population. Et on va avoir, depuis 2005, des collectifs qui vont se réunir, qui vont regrouper des gens qui viennent de ces différents courants. On va retrouver des militants communistes, des militants de la Ligue, on va retrouver des militants du Parti Socialiste, des militants des Verts, on va retrouver des militants à la fois syndicalistes et des organisations, des associations qui disent « essayons de présenter un programme alternatif ». Et ce programme alternatif va être très très élaboré. Ce programme alternatif qui s'appelle « Pour des politiques alternatives » est sorti. Les grands axes de ce courant-là, ce sur quoi ils ont réussi à se mettre d'accord, il y a un certain nombre de divergences entre ces différents courants, entre autres sur l'écologie. Ces courants-là ne sont pas unitaires sur l'écologie, mais il y a un certain nombre d'éléments unitaires. Et je vais reprendre les grands axes. Premier axe, c'est de l'emploi, mais de l'emploi pour vivre. C'est-à-dire qu'à la fois, dans le programme par rapport à l'emploi, il y a nécessité que le travail qu'on fournit donne un certain niveau de vie et ce ne soit pas seulement des petits boulots qui ne permettent pas de vivre. Deuxièmement, si c'est un emploi pour vivre, que ce qu'on produise, ça corresponde à ce dont on a besoin et que ce ne soit pas seulement le marché qui soit l'élément régulateur, parce que si on attend que le marché produise du logement social, eh bien, ce n'est pas du tout gagné. Si on attend que le marché permette aux personnes âgées pauvres d'avoir quelqu'un qui s'occupe d'elles, ce n'est pas du tout gagné. Donc, il y avait ce premier aspect. Par rapport à ça, ça nécessitait de revoir la répartition des richesses et avec un axe très, très précis de dire au cours des 20 dernières années, la part de la valeur créée par le travail qui a été affectée au camp du travail, c'est-à-dire aux salariés, à tous ceux qui vivent de leur travail uniquement, et la part qui a été affectée aux propriétaires du capital, entre 1980 et 2000, 10% de la part qui était affectée aux travailleurs est passée aux propriétaires du capital. Et dire, il y a nécessité de revoir cette répartition et de revenir à ce qui était en 80, 80% pour les travailleurs et 20% pour les propriétaires du capital. Donc c'était un deuxième axe. Un troisième axe, ça va être, pour mettre en œuvre ce type de projet, il y a nécessité d'inscrire notre action dans un projet européen et il y a toute une stratégie par rapport à l'Europe pour permettre que l'Europe ne soit plus la courroie de transmission de l'Organisation mondiale du commerce, mais qu'il y ait une Europe alternative et une révision aussi de la démocratie, puisqu'on en arrive à ce que, avec notre système de représentation, une part très très importante, de l'ordre de 30 à 40% de l'électorat, n'a personne qui le représente au Parlement. Donc il y a nécessité de revoir ça, et pour conduire ces transformations économiques, nécessité de se réapproprier le secteur bancaire et des finances qui a échappé au contrôle public. Donc, il va y avoir tout un travail là-dessus, et un travail de fond, avec des groupes de travail qui vont travailler sur l'ensemble de la France. Avec, je ne sais pas si vous en souvenez, à un moment, l'espoir d'un candidat commun. Et ça a échoué. En décembre, en janvier, il y a eu une tentative de reconstruction, mais ça a complètement échoué, ça a volé en éclats. Alors, pourquoi? On peut dire, il y a deux éléments qui permettent de l'expliquer. Premier élément, ça va être un choc de culture entre ces deux grands courants de pensée. Pour le courant communiste, que ce soit communiste PC ou communiste trotskiste, ce qui est déterminant pour conduire le changement, c'est l'importance du parti. Et le mouvement de l'écologie politique ne pose plus le parti de cette manière-là. On a le courant altermondialiste et le courant autogestionnaire qui ont tendance à dire comment qu'on fait pour construire une société. Eh bien, on fait en sorte que tous les acteurs soient associés et on travaille avec l'ensemble des acteurs et non pas par 51-49. Donc il y a eu un choc des cultures que ce mouvement-là n'a pas été en mesure de régler. Il va y avoir aussi des différences de stratégie. Entre autres, par rapport, par exemple, les Verts. Les Verts ne se trouvent pas associés à ce travail-là. La majorité des Verts. On va avoir des militants individuels qui ont leur carte chez les Verts, qui vont y participer. Mais le parti des Verts ne se sent pas concerné, puisque lui, il n'a pas appelé à voter non au traité constitutionnel, mais à voter oui. Et on va avoir aussi quelque chose qui a perturbé ça, ça va être les stratégies. Certains disant, pour gagner, il y a nécessité de s'organiser entre ceux qui se positionnent résolument dans le camp antilibéral, et d'autres qui disent, pour gagner, il y a nécessité d'une alliance entre les forces antilibérales et la partie gauche du courant libéral-social. Hein? Et c'est cette analyse-là, à l'échelle européenne, qui fait que les Verts, finalement, choisissent d'appeler à voter oui au traité constitutionnel en disant, par des jeux d'alliance, on a la possibilité d'avancer plus loin. Et un petit peu, cette difficulté culturelle n'a pas permis d'aller au bout de ce processus qui se mettait en place. On est tout à fait dans ce que Gramsci appelle la crise, qu'entre le vieux est trop vieux et le neuf trop neuf. On a du neuf qui s'est mis en route, des gens qui ne se trouvaient pas exactement dans le même camp, qui progressivement ont cherché à s'écouter, à s'entendre, mais c'est trop neuf pour que ça ait pu déboucher pour les élections. Et le vieux, trop vieux, est encore là. Chaque courant de pensée est pris dans ses schémas de pensée. Et il y a toute une pression des forces conservatrices dans ces différents courants qui ont tendance à empêcher ce mouvement de se faire. Voilà ce qui explique qu'on va se retrouver au niveau des élections avec à la fois Dominique Voynet pour les Verts, trois candidats pour le courant marxiste, le PC, la Ligue communiste et Lutte ouvrière, et la candidature de Beauvais, qui, elle, va regrouper des gens qui viennent à la fois du mouvement social, à la fois de ces partis-là, mais à titre individuel, et qui ne sont pas porteurs du courant majoritaire de leur parti, autour de sa candidature. Voilà, en gros, on a pratiquement fait le tour de l'ensemble des forces politiques qui se présentent au niveau des élections.
Ah oui, justement, il y a quand même deux candidats que vous n'avez pas du tout évoqués lors de ces séances, hein, c'est Nius et puis Chivardi.
Alors, pour ce qui est de Nius, chasse, pêche, nature et tradition, là, on n'est pas dans un courant de pensée, on est dans... il est plus représentatif d'un lobby, d'un groupe, les pêcheurs, les chasseurs, qui se disent ben, on va essayer de faire entendre nos voix et défendre les intérêts corporatistes. Donc, ce n'est pas un courant de pensée. C'est un lobby qui a réussi à présenter quelqu'un au niveau des élections. Chivardi, c'est encore plus compliqué. J'ai essayé d'écouter son discours. C'est le discours d'un bonhomme. Mais on n'arrive même pas à trouver une cohérence et par rapport à des questions un petit peu précises, il renvoie tout le temps à eh ben, il y aura une assemblée délibérative qui le fera. Quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette assemblée délibérative? Pourquoi faire? Il n'y a pas assez de cohérence, j'ai pas réussi à comprendre.
Paul, merci. Je rappelle que normalement, toutes les séances pour comprendre et débattre donc, sont à écouter aussi sur Internet au www.radiopfm.com. Et puis, on se retrouvera, alors pas la semaine prochaine, mais juste après les élections, le 8 mai. Et à cette occasion-là, on fera l'analyse des résultats. Hein.